Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'aura plus d'empire sur lui. Alléluia. Mes très chers frères, ces paroles sont tirées du verset alléluiatique de ce quatrième dimanche après Pâques. C'est donc aujourd'hui le quatrième dimanche après Pâques, quatrième dimanche après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église nous délivre un enseignement très important sur la vie chrétienne. Elle ne nous laisse pas nous remplir d'une joie qui s'avère stérile et vaine. La joie d'être chrétien, la fierté d'appartenir à l'Église, je suis chrétien, voilà ma gloire, etc. L'Église ne permet pas que nous soyons dans cette sorte de fausse joie qui laisse intact le vieil homme. Certes, il y a un sujet de se réjouir d'être chrétien, mais il y a un sujet de se lamenter si l'on ne fait que se réjouir de cette manière-là. La joie d'être chrétien se manifeste surtout par la joie de suivre les pas que notre Seigneur Jésus-Christ a laissés sur terre afin que nous y marchions. Donc nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. L'Église veut que nous donnions des preuves de la régénération que nous avons reçue par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans un premier temps, nous verrons que Dieu est la source de tous les dons. Nous attacherons surtout à commenter l'épître aujourd'hui. Dieu est la source de tous les dons et que sans Dieu, la nature est inutile, stérile et vaine. Et nous verrons certaines choses sur les talents naturels, sur les choses que la nature nous a données. Nous verrons comment c'est Dieu qui nous les a données et puis comment la nature est sans Dieu et stérile. Et nous verrons aussi quelques caractéristiques de la nature, de la création nouvelle, la nouvelle créature que nous sommes par le baptême. Ensuite, en deuxième point, nous verrons comment l'on connaît vraiment la doctrine chrétienne et comment cela se manifeste et se vérifie. Et troisièmement, nous terminerons en faisant allusion à ce nouvel évangile qui a été prêché, qui est prêché et qui infecte les âmes. Et nous verrons aussi comment les chrétiens sont fixés au ciel et avec quelques considérations pratiques sur les moyens de se sanctifier. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Saint Jacques, dont l'Église nous fait méditer l'Épître aujourd'hui, Saint Jacques dit ceci: Mes bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de changement ni l'ombre de vicissitude. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Vous le savez, mes frères bien-aimés. Tout d'abord, nous avons à voir quelque chose de fondamental dans cet Épître, c'est que les paroles de Saint Jacques sont absolues. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Le Père des Lumières, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu le Père, c'est notre Père, puisque notre Seigneur dit: Je vais à mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Il est notre Dieu dans le Christ, il est notre Dieu par notre nature aussi, puisque c'est lui qui nous a créés, mais à cause de la chute, nous sommes révoltés contre ce Dieu. Et donc ce Dieu, qui est véritablement le Dieu de toutes les créatures humaines et de toute la création en général, comme nous le disions il n'y a pas si longtemps, ce Dieu est en colère contre sa créature humaine qui est révoltée contre lui. Tandis qu'il est amour et compassion pour ceux qui sont dans le Christ, in Christo. Saint Jacques dit: Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Il nous faut donc concevoir la grâce, mes très chers frères, comme selon le symbolisme de la pluie, c'est-à-dire comme quelque chose qui vient d'en haut, qui est dans un réservoir en haut, et qui descend vers le bas. La grâce n'est pas quelque chose qui, d'une certaine manière, se décroche un peu comme les mondains autrefois montaient tout en haut du mât de cocagne pour décrocher certains prix, certains cadeaux qui étaient accrochés. La grâce descend d'en haut, c'est-à-dire qu'elle nous est donnée par notre Père, et quand il s'agit ici de la grâce au sens absolu, c'est la grâce sanctifiante, elle descend d'en haut, de telle sorte que nous n'obtenons aucune grâce qui ne soit descendu vers nous. Et il y aurait beaucoup à dire sur ce que nous disons souvent à propos de la nécessité de l'ordre. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui parce que ce n'est pas notre sujet, mais la hiérarchie dans l'Église est comme une cascade où les grâces descendent. Si on n'est pas soumis à la hiérarchie, les grâces ne peuvent pas descendre puisque nous sommes ailleurs que là où elles descendent, c'est-à-dire ailleurs qu'en bas, au degré où nous recevons les grâces. Donc, concevons toujours la grâce comme quelque chose, comme un don excellent qui descend d'en haut et qui descend du Père, de notre Père céleste. Un auteur nous dit « Quiconque se flatte de trouver dans son propre fond la sagesse et la force qui lui sont nécessaires pour marcher sûrement dans la voie du salut, et qui s'attribue autre chose que le péché et l'ignorance, celui-là dément le Saint-Esprit et ne le reconnaît pas pour la source de cette lumière, de toute lumière et de toute grâce. Si nous croyons que, d'une manière ou d'une autre, nous avons mérité la grâce par quelque action que nous avons faite, eh bien, nous nous trompons. Parce que si nous avons mérité la grâce, c'est qu'il nous a été donné une grâce gratuite qui nous a donné de mériter un accroissement de grâce. Ne confondons pas, mes très chers frères, la doctrine du fait qu'on doit mériter les accroissements de grâce avec la doctrine de la grâce première qui nous est donnée gratuitement. C'est Dieu qui nous met en mouvement et à partir de là, évidemment, il se trouve qu'il continue le don de sa grâce en nous de telle sorte que notre organisme devenu spirituel par le baptême fonctionne de telle sorte qu'il va de gloire en gloire, comme dit l'apôtre. Maintenant, il se trouve que quand bien même nous aurions reçu la grâce pour mériter des accroissements de grâce, ce qui est tout à fait la vie chrétienne, il se trouve toujours que nous devons considérer que de nous-mêmes, nous n'avons que le péché et l'ignorance, et que si nous avons quelque chose de bon, c'est que c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais bien aimé, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Il y a quelques erreurs que l'on fait assez fréquemment dans la vie chrétienne, et malheureusement je l'ai rencontré très souvent chez beaucoup de chrétiens. Ce sont des erreurs qui consistent dans le fait que l'on croit discerner entre des choses qui nous viennent de Dieu et des choses qui nous viennent de la nature. Et donc on nous dit souvent, et on se dit souvent, qu'il y a quand même une juste fierté que l'on peut avoir de ce que l'on est. On peut être fier d'être d'un bon tempérament, on peut être fier d'avoir reçu de ses parents, quelque mécréant qu'il soit, une bonne éducation, et ce sont des choses qui ne sont pas remises en question par la doctrine catholique. Il se trouve qu'elle reconnaît qu'on peut recevoir du bien et des bonnes dotations de la nature, sans que cela semble venir de Dieu. Donc, on se dit, la grâce sanctifiante vient de Dieu, et tous les autres dons viennent de la nature, viennent de ma nature, et comme il ne se trouve pas chez tous les hommes, j'ai droit à être assez fier de mon intelligence, j'ai droit à être assez fier de mon habileté, j'ai droit à être assez fier de ceci et cela qui fait partie des choses que les humains ont tendance à désirer pour eux-mêmes et à en être fiers lorsqu'ils le possèdent par la nature, par la naissance. On dit aussi qu'il ne faut pas cacher ses talents, qu'il ne faut pas que l'humilité nous fasse commettre une injustice vis-à-vis de nous-mêmes. Je suis habile de mes mains, je joue bien de la guitare, que sais-je, je suis capable de lire un livre avec profit et d'en faire une dissertation à la fin. Je ne vais pas le nier sous prétexte d'humilité. Voilà une autre erreur dans laquelle on tombe. Et d'une façon générale, on se dit qu'il ne faut pas tomber dans le misérabilisme, et le misérabilisme consiste essentiellement, lorsqu'on pose la question « mais qu'est-ce que le misérabilisme ?» Le misérabilisme consiste à, en quelque sorte, dépouiller la nature pour tout donner à Dieu, de telle sorte que l'on commette une injustice vis-à-vis de la nature. Mais voyez-vous, mes très chers frères, les commentateurs nous disent que, lorsque Saint Jacques dit « toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut », il parle du plus. Donc il parle aussi du moins. C'est-à-dire que si Saint Jacques nous dit « la grâce sanctifiante vient de Dieu, notre Père », il dit donc, par conséquent, « toute autre grâce qui est moindre que la grâce sanctifiante vient aussi du Père ». Sinon, Question, d'où viendrait-elle? On dit, on vient de le dire, de la nature, mais la nature n'est jamais que la création de Dieu. Dieu crée et infuse l'âme dans chaque créature humaine qui arrive à un certain degré où elle peut recevoir la grâce, elle peut recevoir l'âme rationnelle. Donc, il se trouve que Dieu est intimement lié à la nature. Évidemment, il y a une distinction entre la nature et Dieu, mais il se trouve que lorsqu'on dit j'ai reçu des dons de la nature, c'est en fait de Dieu que on l'a reçu. Vous voyez? Si tel être humain est plus intelligent qu'un autre, son intelligence vient de Dieu. Si tel être humain a plus de capacités, que sais-je, comme on vient de le dire, qu'un autre, cela vient de Dieu. Alors on va dire, et si donc un individu est moins doué, est-ce que ça vient de Dieu? Attendez un instant et vous comprendrez que cela vient peut-être encore plus de Dieu. Vous allez comprendre. Toute grâce, tout don parfait, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Donc si les grâces du salut viennent d'en haut, a fortiori les grâces qui ne sont pas nécessaires au salut. Encore une fois, d'où viendraient-elles si elles ne venaient pas de Dieu? Elles viendraient du diable? Certainement pas. Le diable est incapable de nous donner quoi que ce soit. Elles viendraient de la nature comme quelque chose de radicalement distinct et autonome par rapport à Dieu. C'est absurde. La nature n'est que la création de Dieu. Sans l'action préservatrice de Dieu, la nature dont nous faisons partie retomberait dans le néant. Donc voici ce que dit un auteur. Il s'agit lorsque Saint Jacques parle évoque les grâces excellentes, dons parfaits, il s'agit, dit-il, des dons de la grâce, de la charité et de la justice sans lesquels tous les autres dons sont inutiles. Les talents naturels et tous les autres dons extérieurs sont, à la vérité, des dons de Dieu, dit cet auteur. Mais si Dieu ne donne en même temps par la grâce, en même temps la grâce, pardon, d'en faire bon usage, ceux qui les ont ne s'en servent que pour se perdre. Regardez combien il est difficile à quelqu'un qui a des talents, selon la nature, des dons, des talents naturels, des vertus naturelles, de pratiquer l'humilité chrétienne. Tout ce que je viens de dire, là, à propos de la fierté, la juste fierté, le misérabilisme, etc., tout ceci ne sont que des circonvolutions du moi pour éviter de pratiquer l'humilité. L'humilité consiste à reconnaître que tout ce que nous avons, tant de la nature que de la grâce, vient de Dieu. Et l'humilité en pratique, si j'ose dire, consiste à ne rien utiliser des talents que la nature nous a faits, si ce n'est pour Dieu et Dieu seul, avec tout ce qui va avec, l'Église, etc., bien sûr, mais d'une façon ordonnée, bien entendu. Vous voyez, c'est très important. En fait, je disais tout à l'heure, on posait la question, et alors les gens qui ont très peu de talent, alors est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable? Ça vient de Dieu encore plus, si j'ose dire. Vous allez comprendre maintenant. C'est-à-dire que lorsque j'ai un très grand talent manuel, lorsque j'ai un très grand talent intellectuel, lorsque j'ai un très grand talent divers et variés, de nature diverses et variées, je me complais tellement en moi-même que je ne me sens pas porté à demander à Dieu quelque chose qui semblerait, ou que l'Église me dit me manquer, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, parce que j'ai déjà tellement de choses que je ne pense pas à Dieu. Mais lorsque je n'ai rien, lorsque je suis un minable, lorsque je suis totalement nul et dépourvu de tout talent, je vais avoir une certaine facilité, encore faut-il que la grâce me soit donnée pour ce faire, mais une certaine facilité à me tourner vers Dieu pour me reconnaître pauvre, aveugle et nu, comme dit notre Seigneur dans l'Apocalypse. Alors vous allez dire, alors donc finalement, il vaut mieux être un raté, un nul. Eh bien, mes très chers frères, notre Seigneur, nous le savons, nous a enseigné que ceux qu'il invite ou ceux qu'il fait venir au festin des noces de son fils ne sont pas les gens riches qui le méprisent, qui viennent de se marier, qui ont acheté une paire de bœufs, qui ont acheté une campagne, etc. Mais ce sont finalement ce qu'on appellerait les clodos, c'est-à-dire les miséreux, les misérables, les gens méprisables qui se tiennent le long des haies et qui finalement remplissent les rues et où ils se tournent les pouces, spirituellement parlant. mais aussi humainement parlant. Saint Paul dit, il n'y a pas beaucoup de grands, il n'y a pas beaucoup de puissants, mais parmi nous, disait-il dans l'Église primitive, mais il a pris ceux qui sont petits et méprisés. Et vous savez que l'Église a beaucoup fait, l'Église de Rome en particulier, a beaucoup, je pense à l'histoire de Saint Laurent, l'Église a beaucoup fait pour convertir, pour évangéliser et convertir toute cette masse de gens miséreux dont la profession était la mendicité et qui était le rebut de l'humanité. Et elle en a fait des enfants de Dieu. Alors ce n'est pas que elle méprise les gens qui ont du talent et pour ne favoriser que les gens qui n'ont pas de talent. Mais d'une certaine manière, lorsque nous nous posons la question, que nous sommes orgueilleux et que nous nous posons la question en nous disant « je vais quand même peut-être pas me vautrer devant Dieu alors que j'ai tant de talent de par la nature », il vaudrait mieux, mes très chers frères, que nous n'ayons aucun talent de par la nature et que nous soyons plus portés, grâce à la grâce, avec l'aide de la grâce, à reconnaître que nous sommes dépourvus de tout bien, plutôt que d'avoir des talents et de s'y attacher tellement que cela nous fasse de la peine et que cela nous fasse mal de devoir en attribuer l'origine à Dieu. Bienheureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas forcément dire les idiots, ça veut dire ceux qui se dépouillent eux-mêmes de tout ce qu'ils ont. Et il est vrai qu'il est moins difficile de se dépouiller de ce que l'on a, lorsque ce que l'on a ne vaut pas grand-chose aux yeux des hommes, ou à ses propres yeux. Et encore que, évidemment, comme dirait notre père Saint-Augustin, il y a plein de mauvais pauvres, il y a plein de personnes qui sont méchamment sans talent, ils aimeraient en avoir, et donc ils les jalousent chez les autres. Bienheureux celui qui n'a pas de talent, et qui est tout entier tourné vers Dieu pour reconnaître que tout don parfait, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas avoir tel ou tel talent, mais il s'agit de, premièrement, d'être reconnaissant pour le talent que l'on a reçu, ensuite, de ne l'utiliser qu'à bon escient, c'est-à-dire que pour la gloire de Dieu, dans l'ordre et dans la perspective de son salut. C'est ainsi qu'il y a des talents, mes très chers frères, il y a des talents qui ne servent strictement à rien. Il y a des gens qui ont un talent pour la danse. Il y a des hommes, des femmes, enfin j'espère surtout des femmes, enfin bon, des hommes aussi, qui ont un talent pour la danse, etc., qu'ils savent se démener dans tous sens, c'est-à-dire se gigoter dans tous sens, de telle sorte qu'ils sont... À quoi cela sert pour le salut? Ça ne sert à rien. C'est un talent totalement inutile. Malheureux celui qui l'a, parce que, d'une certaine manière, comme c'est un talent qui se manifeste par d'une certaine manière et d'une façon sensible, la personne souffre lorsqu'elle elle y renonce. Il y a des personnes qui ont des talents peut-être un peu moins particuliers et qui sont très intelligents. Et donc, il faut absolument que leur esprit, en quelque sorte, éructe quotidiennement des choses, des dissertations, des articles, des choses. Et s'ils ne le font pas, ils ont l'impression d'exploser. Les malheureux, il faut qu'ils mortifient leur intelligence, et comme nous y reviendrons à la fin de ce sermon, il faut qu'ils mortifient leur intelligence. Vous voyez, il y a des gens qui sont généreux, et donc ils aimeraient donner, ils aimeraient faire toutes sortes de choses, et alors ils s'engagent dans toutes sortes d'associations caritatives mondaines, et ils font toutes sortes de choses, et de telle sorte que finalement ils participent au chaos ambiant. Alors évidemment, on ne va pas dire c'est mauvais la tendance à la générosité que vous avez, mais il faut qu'elle soit ordonnée. Vous ne pouvez pas vous faire les complices des exactions qui ont lieu contre nos pays, etc., si nos peuples, si vous ne maîtrisez pas ce talent que vous avez à être pour être généreux, pour aider votre prochain. Vous voyez, en réalité, mes très chers frères, nous pourrions donner encore plein d'autres exemples, mais chacun s'appliquera à soi-même selon ce qu'il se voit dans le miroir de la parole de Dieu. Toujours est-il, mes très chers frères, que la doctrine générale qui s'en dégage, c'est que quel que soit le talent que la nature nous ait donné, et nous en avons souvent plusieurs à la fois, il faut qu'il passe sous le joug du Christ. Il faut qu'il passe par la porte étroite, et la porte étroite rabote. Il y a une partie de ses talents qui reste à l'extérieur. C'est un petit peu comme quand on fait passer, quand une ménagère fait des petits gâteaux et puis qu'elle a un emporte-pièce, il y a une partie de la pâte qui reste dans l'emporte-pièce et qui est formée pour devenir le petit biscuit, le petit biscuit qu'elle veut faire. Et il y a une partie de la pâte qui reste à l'extérieur et qui doit être réutilisée. Elle ne peut pas servir, sinon il y aurait des beaux biscuits et puis il y aurait des biscuits informes qui sont malséants. Vous voyez, quels que soient les talents que nous avons reçus de la nature, mes très chers frères, c'est de Dieu que nous les avons reçus par la médiation de la nature. Et donc, il faut que nous les utilisions pour Dieu, ce qui nécessite une grande réforme de ces talents et qui nécessite que, de fait, l'usage que nous en faisions autrefois, eh bien, s'affine de telle sorte qu'il y a une partie de ces choses que nous ne faisons plus. Et même, il y a une partie de ces talents que nous ne pouvons plus utiliser. Alors vous allez dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de minimiser finalement la générosité de la grâce de Dieu qui où on voit, il y a comme une sorte de cascade de grâce qui descend sur nous. Est-ce que c'est pas faire injure à Dieu que de tenir les propos que vous tenez? En réalité, mes très chers frères, regardez derrière les propos que vous venez de tenir. En fait, est-ce que ce n'est pas plutôt que vous voulez dire, est-ce que dans cette doctrine, il n'y a pas une injure faite à moi? Et la réponse est oui, certainement. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes confirmés, l'évêque, normalement, évidemment, ça ne se fait plus tellement aujourd'hui que nous sommes très civilisés, mais normalement, nous donne une grande claque sur la joue. Il nous donne une grande, grande baffe, si j'ose dire, sur la joue. Pourquoi? Eh bien, nous disent, il y a toutes diverses raisons, mais disons, une des raisons que nous donnent les liturgies, c'est qu'il nous apprend désormais à recevoir les injures et les insultes, et même à être frappé par Dieu, sans chercher à nous dérober. Parce que nous sommes devenus forts, nous avons été confirmés dans la foi pour pouvoir faire bon usage de toutes les adversités, de toutes les insultes, tous les soufflets que nous recevons. Et les premiers soufflets, finalement, les seuls soufflets que nous recevons, viennent de Dieu, que ce soit par la médiation des hommes ou que ce soit directement de Dieu. Il nous dit, tout ce que tu crois avoir, tu ne l'as que par moi, et tout ce que la nature t'a donné te porte à te damner, parce que tu l'utilises sans moi, contre moi, ou alors pour moi, mais d'une façon désordonnée. Vous voyez, mes très chers frères, le Père des Lumières, c'est, nous disent les commentateurs, Dieu représenté sous le symbole du soleil spirituel, sans lequel aucune semence ne germe. Le soleil fait pousser les plantes, le soleil aussi fait se corrompre ce qui peut être corrompu. Le soleil fait germer les graines en chauffant la terre, et lorsqu'il chauffe et réchauffe un cadavre, eh bien il le fait pourrir, et il fait se développer les vers en lui. C'est le même soleil, c'est le Père des Lumières. Bienheureux ceux qui reçoivent les grâces excellentes et les dons parfaits du Père des Lumières, et dans lesquels il fructifie. Notre Père est tellement généreux qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Les bons et les méchants sèment, les bons et les méchants reçoivent la pluie, les bons et les méchants récoltent. Mais les bons récoltent pour la vie éternelle et les méchants récoltent pour le siècle, de telle sorte que, alors même qu'ils auraient la bouche et l'estomac, comme dit le psaume, remplis des biens de Dieu, Dieu les frappe et les châtie. Et le plus grand des châtiments de Dieu, c'est de recevoir sa récompense ici-bas. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Ce Père des Lumières, qui est le nôtre, nous manifeste son amour, dit Saint Jacques, par le fait que de sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Si Dieu nous donne des dons, cela va expliquer ce que je viens de dire, si Dieu nous donne des dons, mes très chers frères, c'est pour lui. C'est pour que, en tant que les prémices de ses créatures, nous les utilisions pour lui et pour lui exclusivement. Quiconque utilise les talents qu'il a reçus, de Dieu ou de la nature ou des deux, en dehors de la volonté de Dieu, est un voleur. Et nul voleur n'a sa part dans la cité sainte. De sa propre volonté, dit Saint Jacques, c'est-à-dire non pas de notre propre volonté. Il nous a engendrés par la parole de vérité, c'est-à-dire par son Fils et par l'enseignement de l'Église, afin que nous soyons comme les prémices de ces créatures. L'amour de Dieu envers nous ne se manifeste que par la séparation d'avec le monde. Dieu nous a séparés comme les prémices de ces créatures. Qu'est-ce que les prémices? Eh bien, c'est ce que l'on prélève dans le Saint-Testament, ou d'ailleurs dans le Nouveau aussi, c'est ce que l'on prélève des dons de Dieu, des dons matériels de Dieu, pour les donner à l'Église, pour les rendre à Dieu. Dieu a créé le monde, et nous sommes les prémices de ce monde. Dieu a créé le monde pour l'homme, Dieu a créé, en quelque sorte, toute la réalité créée, afin que les prémices de ces créatures, ses enfants, vivent pour sa gloire et sa gloire seule. Si nous cessons de vivre pour la gloire de Dieu, mes très chers frères, et il y aurait bien des choses à dire sur cette notion de vivre à la gloire de Dieu, qui est la plupart du temps tout à fait différente de la manière dont nous avons l'envisager, mais si nous ne vivons pas pour la gloire de Dieu, alors nous vivons pour notre gloire seule, et notre Dieu est un Dieu jaloux, qui nous a engendrés par sa propre volonté. Il ne nous a pas réformés pour que nous n'en fassions qu'à notre tête. Il nous a engendrés pour nous incorporer dans le corps de son fils, de ce corps mystique de son fils, de telle sorte que nous fassions sa volonté, la volonté de celui qui nous a engendrés de par sa propre volonté. La source éternelle de la grâce chrétienne, dit un auteur, c'est l'amour tout gratuit de notre Dieu. Si nous avons reçu quoi que ce soit de la nature et de la grâce, cela provient de l'amour de Dieu, mais de l'amour de Dieu en Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous aime dans son Fils. Si Dieu nous a donné quelque chose, c'est pour que nous l'utilisions pour l'utilité commune de l'Église, et non pas pour nous-mêmes, ou contre Dieu, évidemment. Contre l'Église, sachant que l'on est contre l'Église lorsque on n'en fait qu'à sa tête en tant que chrétien. Afin que nous soyons les prémices de ces créatures, que nous vivions pour Dieu, et non pas pour notre profit. Les prémices, nous disent les auteurs, ce sont les prémices, c'est l'élection. Cela se manifeste par une vie digne de notre vocation. Personne ne sait s'il est un élu ou un réprouvé. La seule chose, il y a des gens qui se prétendent chrétiens et qui ne vivent pas conformément à la hauteur de leur vocation. Et ces gens-là, personne ne doit les juger sur le fond, mais ces gens-là, on peut discerner que ce ne sont pas des vrais chrétiens. Peut-être qu'ils se convertiront, peut-être qu'ils changeront de vie, et c'est pour cela que, comme nous le disions il n'y a pas si longtemps, nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas les juger, mais nous devons nous séparer d'eux, afin de ne pas être enveloppés dans le même châtiment qui les atteindra s'ils ne se repentent pas. Mais au contraire, que nous tenant à part, comme les prémices de Dieu, consacrés, sanctifiés, mis à part du monde, ils puissent nous rejoindre et rentrer dans l'ordre sans que nous soyons nous-mêmes happés par le désordre. Il n'y a pas d'autre moyen que d'affermir sa vocation que de se conformer très exactement aux maximes de l'Évangile et à la loi de Dieu. Et nous passons à notre deuxième point qui consiste dans cette parole de Saint Jacques toujours et qui fait suite. Vous le savez, mes frères bien-aimés. Chitis, fratres mei dilectissimi. Vous le savez. C'est une parole qui est assez mystérieuse. C'est une parole qui n'est pas dans le grec mais qui est dans le latin. C'est une parole assez mystérieuse qu'il nous faut considérer. Chaque année, nous nous arrêtons un petit peu parce que c'est assez étrange ce que dit Saint Jacques. Vous le savez, mes très chers frères. Alors, quand on parle dans une discussion, on dit « oui, vous savez ce que je dis », etc. Bon. Mais là, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit au bien-aimé de Dieu « vous le savez », il nous faut nous poser la question, mes très chers frères, le savons-nous en réalité? Vous le savez. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vous le dire, puisque cela est ancré en vous. Mais cela l'est-il vraiment? Sommes-nous de ceux qui ont été engendrés par la parole de vérité, de par la propre volonté de Dieu, afin qu'ils soient comme les prémices de ces créatures, et qu'ils le savent? Si nous le savons, mettons-le en pratique. Ne nous contentons pas d'écouter la parole sans la mettre en pratique, dira Saint Jacques ailleurs dans son épître. Il y a quelques erreurs modernes sur ce sujet. Nous savons pourquoi, parce que nous l'avons lu quelque part, parce que nous nous sommes convertis, parce que nous avons compris la doctrine, et désormais, étant donné que nous avons fait le pas pour entrer dans le christianisme, il se trouve que nous pourrions répondre à Saint Jacques, oui, nous le savons. Et faites très attention, mes très chers frères. Une des erreurs qui est très commune chez les convertis de notre époque, c'est qu'en fait, ils reconstituent l'Église à partir de leurs pratiques individuelles. C'est-à-dire que je suis chrétien, donc j'ai besoin d'un centre de messe, donc j'ai besoin d'un prêtre, éventuellement j'ai besoin de plus, c'est-à-dire d'un évêque, etc., de toute une communauté, une structure, mais tout ceci ne sert qu'à faire fructifier mon christianisme. Évidemment, ce n'est pas entièrement faux dans la mesure où le seul point de vue qui est spontanément le nôtre, c'est le point de vue de notre individualité. Donc c'est normal que nous pensions à nous d'abord et à partir de notre expérience propre. Je ne dis pas le contraire. Mais faisons très attention, parce que souvent, c'est tout simplement le processus, ce n'est pas un processus naturel, c'est le processus de la forma mentis moderne. Nous reconstituons le monde à partir de celui qui pense. Reconstituer l'Église à partir de sa profession de foi personnelle n'est pas la façon d'appartenir à l'Église, la bonne façon d'appartenir à l'Église. Au contraire, on pourrait même rester très longtemps en dehors de l'Église tout en s'estimant non seulement un membre de l'Église, mais ce n'est pas assez, un champion de l'Église. En fait, il faut rentrer dans l'Église. Il faut rentrer dans l'Église, Église qui préexiste à notre profession de foi quand même. Vous voyez, l'Église n'est pas une auberge espagnole où l'on vient avec ses talents naturels, on prend la grâce et disons, qui féconde nos talents, et à partir de là, on va faire des choses. Non, mes très chers frères, on rentre dans quelque chose qui nous dépasse. On rentre dans l'Église qui existe avant nous et qui existera après nous si nous la quittons, et qui ne change pas, pas plus que Dieu. Le christianisme, vous voyez, ne féconde pas la nature. Vous allez dire, oui, mais il n'y a pas cette maxime très importante, la grâce ne détruit pas la nature, mais elle la perfectionne. Arrêtons un peu avec cette maxime qui est tellement mal comprise. Perfectionner quelque chose, dans le langage scolastique, signifie lui faire atteindre sa fin. La grâce ne détruit pas la nature, évidemment, ça serait absurde. Elle la perfectionne, c'est-à-dire elle ne lui donne pas de fonctionner mieux, etc. Avant, j'étais très intelligent, maintenant je suis très intelligent parce que je suis catholique. Non, c'est-à-dire que la nature est imparfaite en elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas atteindre sa fin toute seule, puisqu'elle est faite pour une fin qui la dépasse. La grâce, étant donnée à la nature, permet à la nature de se dépasser elle-même et de devenir véritablement ce qu'elle doit être. Et c'est le mystère de l'incorporation au Christ, et c'est le mystère de la participation à la nature divine dont parle saint Pierre. La grâce a créé la nature, c'est-à-dire le Dieu qui donne la grâce, a créé la nature pour que celle-ci soit son support. Dieu ne se baladait pas dans une antiquité brocante et s'est dit, tiens, j'ai vu, a dit à Moïse, tiens, j'ai vu ce coffre intéressant, il y a deux chérubins dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'acheter au brocanteur et puis je vais venir habiter dessus. Non, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, de rien en quelque sorte, avec des éléments épars dans la nature, tu feras une arche avec des barres, avec de l'or, avec du bois. Tu mettras les deux chérubins dessus, et je viendrai habiter dessus. Dieu n'est pas venu habiter sur quelque chose qu'il a récupéré. Dieu a fait faire l'arche d'alliance par Moïse afin de pouvoir venir y résider. Dieu nous a créés et nous a recréés par le baptême, parce que la première création de Dieu a été pervertie par la chute. Donc, il nous a recréés par le baptême, afin de pouvoir venir agir en nous et résider en nous. Pour une raison qui nous échappera toujours. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à nous de cette manière-là? Mais de toute façon, la question ne se pose pas puisqu'il nous a créés pour lui. Donc il ne s'intéresse pas à nous comme quelqu'un qui découvre quelque chose en chinant et qui tout d'un coup s'entiche de la chose. Nous n'étions pas. Dieu nous a créés. Dieu nous a recréés pour Dieu. Ça le regarde s'il a un intérêt pour nous, et tout ce que nous avons à considérer pour nous, c'est que nous devons correspondre à sa volonté, sinon nous sommes en dehors de sa volonté. Or, être en dehors de la volonté de Dieu, c'est n'est jamais être en dehors de la volonté salvifique de Dieu, car personne n'échappe jamais à la volonté de Dieu. Et celui qui se glorifie d'être en dehors de la volonté de Dieu et qui se glorifie du fait qu'il n'obéit à aucun des commandements de Dieu, n'est jamais qu'un réprouvé qui a été fait pour le jour de la condamnation. Toute créature a une fin, l'homme méchant pour le jour de la condamnation, pour le jour du jugement, dit l'Écriture. Nous n'échappons jamais à la volonté de Dieu, bienheureux ceux qui participent à la volonté salvifique de Dieu. Au jugement dernier, lorsque tout le monde sera jugé et que la justice de Dieu triomphera, la volonté de Dieu se manifestera, mais ce ne sera pas une volonté salvifique. La volonté salvifique se manifeste par le don de la grâce sanctifiante qui nous incorpore au Christ en nous faisant rentrer dans l'Église et en ne nous faisant pas... Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas se rêver dans l'Église comme quelqu'un qui... Vous savez, quand on est très fatigué, on rêve qu'on se lève, on rêve qu'on se réveille, on rêve qu'on se lève, qu'on commence sa journée, etc. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est encore couché. C'est monstrueux quand ça arrive. Eh bien, malheureusement, probablement qu'au jugement dernier, il y aura un grand nombre de convertis du XXe et du XXIe siècle qui se réveilleront tout d'un coup et qui se rendront compte qu'ils ne sont pas du tout dans l'Église, mais qu'ils se sont rêvés non seulement membres de l'Église, mais encore défenseurs de l'Église, mais encore pratiquants dans l'Église, alors qu'ils étaient dans leur volonté propre. Ils seront convaincus de vol, parce qu'ils auront utilisé, pour leur plus grande illusion, les dons que Dieu leur a faits. Le terme de créature, nous disent les auteurs, le terme de créature s'applique tout spécialement aux élus. Toutes les créatures du monde de l'univers sont les créatures de Dieu. Mais à strictement parler, nous sommes son ouvrage, dit saint Paul, ayant été créés en Jésus-Christ dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées avant tous les siècles afin que nous y marchions. Nous sommes les créatures par excellence de Dieu, les prémices des créatures. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous mélanger avec les païens. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire alliance avec eux. Alors vous allez dire, mais si on ne fait pas alliance avec les mondains, avec les demi-chrétiens, on n'arrivera jamais à rien. Mes très chers frères, êtes-vous déjà arrivé à quelque chose, alors que cela fait si longtemps que l'on fait alliance avec les mondains, avec les demi-chrétiens? Non. Si vous voulez arriver à quelque chose, si vous voulez être conforme à la volonté de Dieu, cessez de fréquenter les gens de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mes très chers frères. Sortez du milieu de Babylone. On dit aujourd'hui, la grande mode, c'est de dire il faut faire sortir le cédévacantisme du ghetto. Mais quand a-t-il jamais été un ghetto? Il n'a jamais été qu'un rassemblement d'individus sans lien les uns avec les autres, chacun menant le combat qu'il croit avoir reçu de la part de Dieu de mener, chacun se prenant pour une Jeanne d'Arc, qui est une grande sainte, mais qui est vraiment peut-être la sainte qui est la plus incompréhensible pour aujourd'hui. C'est pour cela que nous ne fêtons pas sa fête aujourd'hui, parce que c'est plus proche, c'est plus propre à pousser les gens dans la pente qu'à vraiment les édifier. En réalité, chacun se prend pour le sauveur de l'Église, et voyant qu'il est dans une totale impuissance, il se tourne vers les païens pour essayer de voir ce qu'il pourrait faire avec eux. Quand commencerons-nous à être chrétiens, mes très chers frères? Quand tous ces gens-là rentreront-ils enfin dans l'Église? Quand ces gens-là se mettront-ils en ordre? Quand ces gens-là quitteront-ils, s'éveilleront-ils de leur rêve funeste dans lequel ils s'imaginent qu'ils sont tellement dans l'Église que Dieu leur doit quelque chose, alors qu'ils sont à l'extérieur de l'Église? Et même qu'ils construisent, sans vraiment le savoir, des contreforts à l'extérieur de l'Église pour empêcher ceux qui doivent hériter du salut de rentrer dans l'Église, si c'était possible. Pourquoi? Parce qu'ils les amusent, comme on disait autrefois, ils les amusent à toutes sortes de combats, à toutes sortes d'occupations, de choses, de considérations, qui les empêchent de faire partie effectivement de l'Église. Considérez, mes très chers frères, qu'il y a peut-être 90% des convertis d'aujourd'hui qui ne sont pas dans l'Église. Et quand je dis convertis, je parle des convertis de chez nous, hein, je ne parle pas des convertis en général. Pourquoi? Parce que ce n'est pas être dans l'Église que de se rêver dans l'Église. Ce n'est pas recevoir la grâce parfaite et la grâce excellente et le don parfait qui descendent en haut que d'être ailleurs qu'à l'endroit où aboutissent ces grâces qui descendent d'en haut pour aller vers le bas. Notre Dieu est un Dieu parfait. C'est notre Père, chez qui il n'y a pas de changement ni l'ombre de vicissitude. Nous terminons par ce troisième point. Il n'y a pas de changement ni l'ombre de vicissitude. Depuis quelques siècles, mes très chers frères, un nouvel évangile est prêché dans l'Église. Non pas dans l'Église en tant que corps incorruptible du Christ, mais dans la chrétienté, parmi les chrétiens. Il ne manque pas d'évêques qui se sont levés dans tous ces siècles contre ce nouvel évangile. Ils ont levé, ils ont protesté, et on les a combattus. Pourquoi? Parce que ce nouvel évangile, prêché parmi les chrétiens, diminue la puissance de Dieu et donne à l'homme un pouvoir sur lui-même qui fait plus ou moins de Dieu son débiteur. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas très ancien, et ce n'est pas nouveau, nouveau non plus. Voyez-vous, ce nouvel évangile consiste, nous en parlerons plus clairement une autre fois, Dieu voulant, mais ce nouvel évangile consiste à donner l'impression que l'Église est dans une dynamique qui évolue. Alors vous allez dire, bah oui, évidemment, c'est le nouvel évangile, Paul VI, etc. Ouf, ça a commencé bien avant, bien avant, bien avant. Ça fait longtemps qu'on s'imagine que l'Église évolue. Ça fait longtemps qu'on s'imagine que l'Église doit être au diapason, sinon du monde, du moins de son temps. Ça fait longtemps que l'on modifie la liturgie. Ça fait longtemps que l'on attaque les dogmes traditionnels. Ça fait longtemps que les docteurs fondamentaux de l'Église sont déboulonnés au profit d'une multitude de nouveaux docteurs qui, finalement, quand on l'examine, la doctrine, leur doctrine, de plus en plus, c'est une doctrine nouvelle. C'est une doctrine qui ruine la structure de l'Église. Le chaos actuel, mes très chers frères, n'est pas arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Puis le chaos actuel ne peut pas non plus être imputé aux ennemis de l'Église qui sont dehors, qui n'ont jamais pu rentrer, qui grattent la muraille de l'autre côté. Quand on nie ou quand on relativise la puissance invincible de Dieu sur les âmes, alors, mes très chers frères, on donne aux âmes une puissance divine, sinon sur elles-mêmes, comme si elles allaient se sauver elles-mêmes, ne soyons pas si grossiers, ne pensons pas que les gens sont si grossiers, mais comme si c'était à elles, en quelque sorte, de faire bon usage de ce qu'un Dieu horloger, finalement, leur a mis entre les mains. Ça, c'est le fond du nouvel évangile. Vous allez dire, ce nouvel évangile n'a pas l'air très agressif, n'a pas l'air très choquant. Justement, il est d'autant plus pernicieux. Il est d'autant plus pernicieux, et puis il est évolutif. Dans l'oraison, si nous parlons de ce nouvel évangile qui comporte cette notion de dynamique funeste, c'est que dans l'oraison, il est dit ceci. « Ô Dieu qui donnez à vos fidèles de n'avoir plus qu'un seul vouloir, accordez à vos peuples l'amour de vos commandements et le désir de vos promesses, afin que, parmi les multiples attraits de ce monde, nos cœurs demeurent fixés là où sont les vraies joies. » Il y aurait tant de belles choses à dire sur cette oraison, mais nous avons étudié plus ou moins, enfin nous avons survolé l'épître d'aujourd'hui. Nos cœurs, que nos cœurs soient fixés, que nos cœurs demeurent fixés. Fixa, nostra fixa sin corda. Le monde passe, et sa concupiscence aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien souvent, nous prenons pour des choses éternelles ce qui appartient au temporel. Bien souvent, il nous semble que nous combattons des combats qui ont pour but l'avènement de la cité de Dieu, alors que nous fuyons la cité de Dieu. La cité de Dieu est au ciel. Alors vous allez dire, ah ben voilà, vous ne voulez pas qu'elle se manifeste ici-bas. Elle s'est manifestée ici-bas. Elle a été détruite, en partie. En tout cas, la cité de Dieu, pas au sens absolu du terme, mais enfin, la chrétienté. Vous allez dire, oui, par les ennemis de l'Église, il faut la rebâtir. Ce n'est pas en faisant comme vous faites, mes très chers frères, que vous allez la rebâtir. Personne ne rebâtit la cité de Dieu. La cité de Dieu est. Il faut en faire partie pour se rendre compte que l'accomplissement de la volonté de Dieu produit des prodiges ici-bas dans le temporel. Mais si l'on pratique la religion dans un but temporel, alors quelle est la différence avec les juifs qui pratiquent leur religion dans le but de leur triomphe, en attendant leur triomphe? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les idées sous-jacentes à cette étrange notion de reconstruction de la nouvelle chrétienté. Il y a quelque chose de très impur dans tout cela. Que nos cœurs soient fixés. Vous allez dire, oui, mais c'est une sorte de fixisme spiritualiste qui empêche l'action. Mes très chers frères, venons-en au bilan. Toutes les actions qui ont été prises ont-elles débouché sur autre chose que sur du vent, de la stérilité et même une recrudescence d'impiété? Voulez-vous que vos enfants perdurent dans la foi? Voulez-vous vous-même ne pas apostasier à un certain moment? Voulez-vous vous donner les moyens, avec l'aide de Dieu, de faire quelque chose qui dure? Alors cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. N'utilisez pas l'Église pour des fins temporelles. Soumettez-vous à l'Église, rentrez dans l'Église. N'attirez pas l'Église à vous. Allez à l'Église. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comment rester fixé? Eh bien, mes très chers frères, les auteurs nous donnent, toujours à partir de l'Épître, nous donnent trois grands moyens qui sont cumulatifs évidemment, hein, trois grands moyens de sanctification. Parce que Saint Jacques nous dit donc tout bien, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, et il dit, vous le savez, mes frères bien-aimés, que chacun, dit-il, soit empressé à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Le premier moyen de se sanctifier, et donc de construire pour l'éternité, et de se sanctifier pratiquement ici, concrètement ici-bas, et de sanctifier son prochain, dans le cadre familial, dans le cadre sociétal, c'est, nous disent les auteurs, d'être empressé à écouter. C'est la docilité à l'enseignement de l'Église, non telle qu'on se l'administre à soi-même en lisant toutes sortes les derniers articles qui sortent sur les blogs, ou même les bons livres, les bons livres anciens, enfin les bons livres que toutes sortes de braves gens mettent à notre disposition, mais non pas en se l'enseignant à soi-même, mais tel qu'on le reçoit de l'Église enseignante. Alors vous allez dire, oui, mais il y a toutes sortes de problèmes, etc. Oui, mais ces problèmes sont quand même relatifs, l'Église enseignante existe. Elle vous parle, ici et là, écoutez-la. C'est la docilité, premier moyen de sanctification, la docilité et l'enseignement de l'Église. Si l'on vient chez le médecin et qu'on lui dit « Ah ben oui, dans Science et Vie, j'ai vu que… » etc. Qu'est-ce qu'il va dire le médecin ?« Ben écoutez, vous revenez une autre fois quand vous aurez arrêté de lire toutes ces bêtises. » Oui, mais c'est pas bêtise, c'est des choses que j'ai lues qui sont faites par des médecins, etc. Quand vous allez consulter un avocat, vous ne lui dites pas, mais vous savez, il me semble que dans le code civil, vous vous en remettez à lui. Alors vous allez dire, il ne faut pas être des moutons. Ah bon, bah alors vous avez raté le sermon du dimanche du bon pasteur, alors c'est dommage pour vous. Docilité à l'Église, premier moyen de sanctification. L'Église, ce n'est pas le rêve de l'Église. C'est-à-dire, ce n'est pas les livres, je lis les encycliques, je lis les livres, etc. de théologie, je me farcite tout ça, et puis après, je crois avoir écouté l'Église. Écouter l'Église, c'est écouter la voix vivante de l'Église, c'est-à-dire des prêtres et des évêques à chaque époque. Et c'est toujours le même enseignement qu'il vous donne, et si ce n'est pas le même enseignement, alors c'est un enseignement faux. Et ce n'est pas l'Église. Premier moyen de sanctification, la docilité à l'enseignement de l'Église enseignante. Deuxième moyen, donc, que chacun soit empressé à écouter. Et je sais que vous êtes empressé à écouter, mes très chers frères, c'est pour cela que je vous incite et je vous exhorte à croître dans cet empressement à écouter ce que l'Église a à vous enseigner. Deuxième chose, lent à parler, dit Saint Jacques. Il faut, nous disent les auteurs, se nourrir de l'enseignement qu'on a reçu au premier point dans le silence de la charité. Ce n'est pas une figure de style, hein. Le silence de la charité, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a mangé, si j'ose dire, pour prendre un exemple un peu... Enfin bon, on a mangé, puis on va faire une petite sieste pour mieux digérer. Vous voyez? Si, pour reprendre l'exemple d'un exemple classique, si on a mangé, et puis ensuite on sort dans la rue où on se met, et puis comme ça, et puis d'ailleurs c'est ce que les gens font. Ou alors on prend des photos de son repas, et puis on le met sur les sites de photos, là j'oublie le nom, peu importe, et on dit voilà, j'ai mangé ceci, ceci a été préparé comme ceci a été fait par tel chef, etc. Ceci, voilà, il y a telle calorie, etc. Mais vous dépensez tout ce que vous avez mangé, toute la force que vous avez emmagasinée, en quelque sorte, pour parler de ce que vous avez mangé, et puis après vous n'aurez plus de force pour travailler. Restez dans le silence de la charité, mes très chers frères. Ne dites pas, j'ai entendu un excellent enseignement, je vais le retweeter, je vais le partager sur Facebook. Mes très chers frères, tenez-vous dans le silence de la charité. La charité, qu'est-ce que c'est? Oh, la charité, c'est libéral. Attention. Attention. La charité, c'est l'amour pour Dieu. L'Église nous enseigne, ensuite on se tait, on reste dans le silence et on se dit « Mon Dieu, montrez-moi tout ce que je dois changer dans ma vie. Montrez-moi là où votre parole, non pas un prédicateur, mais votre parole m'a montré que j'étais fautif, m'a montré que j'étais stérile, m'a montré que j'étais voleur. Et donnez-moi, mon Dieu, par votre grâce, vous, Père des Lumières, mon Père, donnez-moi de changer, de me réformer. » Il faut donc s'en nourrir dans le silence de la charité. Et troisièmement, ce n'est pas exclusif d'autres choses, mais c'est les trois points que nous donne Saint Jacques, Et il dit, lent à parler, empressé à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il s'agit de la paix du cœur par le calme des passions. Si j'entends un sermon et que je me dis, ah, ben un tel aurait dû vraiment l'écouter parce qu'il est tellement désordonné, il est tellement, c'est vraiment un malade, c'est un fou furieux qui fait n'importe quoi, etc., vous n'avez pas bien compris. Il faut la paix du cœur. On n'écoute pas un sermon pour les autres. On n'écoute pas un sermon pour prendre des, pour recevoir des arguments, pour aller juger son frère, même s'il est fautif. La paix du cœur par le calme des passions. Vous voyez, des fois on écoute un sermon, ça nous vexe, ça nous met de mauvaise humeur. Mais la plupart du temps, on écoute un sermon et puis ça nous rend plein de zèle pour les autres. Commençons par nous-mêmes, mes très chers frères. Si nous avons entendu des choses et nous sommes des parents, père, mère, et que le sermon concerne nos enfants et que nous avons besoin de rectifier, évidemment, il faut le faire, il faut rectifier, parce que nous avons un devoir hiérarchique par rapport à eux. Et ainsi de suite. Si un prêtre entend le sermon d'un évêque, etc., et puis par rapport à ses paroissiens, il doit le mettre en pratique, bien sûr. Mais mis à part ces missions hiérarchiques reçues par le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage, il n'y a pas d'autre chose à faire, d'ailleurs l'un n'exclut pas l'autre, que de considérer en soi-même tout ce que nous avons entendu, de nous y soumettre, et de combattre les passions qui font la guerre à l'esprit en nous. Ce n'est qu'ainsi que nous expérimenterons ce qui est dit dans le verset alléluiatique, la droite du Seigneur accomplit des prodiges, la droite du Seigneur m'a exalté. Ce sont les paroles triomphantes du Messie ressuscité. Mais en lui, c'est notre cri de joie qui ne sera jamais le nôtre, mes très chers frères, si nous ne pratiquons pas ces trois moyens de sanctification, si nous ne savons pas ce que nous dit Saint Jacques, et si nous nous imaginons que nous pouvons recevoir la grâce et les dons parfaits du Père des Lumières en dehors de la structure de l'Église et en dehors de sa volonté. Mes très chers frères, préparons-nous à pouvoir dire avec notre Dieu, la droite du Seigneur accomplit des prodiges, la droite du Seigneur m'a exalté, et il nous faut nous y préparer par l'humilité, le silence et le calme des passions. Avec l'aide de la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.